RCF.
Troisième volet d'une série d'entretiens sur la fraternité dans la Bible avec vous, André Ouénin. Nous avons dit que Caïn et Abel illustrent la difficulté de vivre dans des relations ajustées quand au-dessus, les parents ne donnent pas à leurs enfants la possibilité de consentir à l'altérité et à la limite. Et nous avons vu qu'Adam et Ève ne le vivent pas entre eux. Pour la suite de nos entretiens, vous nous proposez de regarder cette fois deux sœurs, Rachel et Léa, qui sont les épouses de Jacob. Rappelez-nous le contexte.
Oui, donc Rachel et Léa sont les deux filles de Laban, qui est l'oncle de Jacob. Donc Jacob, qui a volé la bénédiction de son frère, est menacé de mort par Ésaü. Sa mère, qui pense à tout, fait en sorte qu'on l'envoie dans sa propre famille, à 1000 kilomètres de là.
Elle a encore une histoire de fils préféré. Hein.
Voilà, tout à fait.
Et donc on l'envoie chez l'oncle.
On l'envoie chez l'oncle pour le mettre à l'abri et pour éventuellement qu'il puisse aussi y trouver femme. Là, il arrive, il rencontre la première, c'est Rachel, qui est une belle femme. Il est accueilli dans cette famille, et puis quand l'oncle lui propose de travailler pour lui, mais pas gratuitement, donc en ayant un salaire, pour ne pas l'exploiter, il lui demande « Quel salaire veux-tu ?» Et il dit « Je veux Rachel, ta fille cadette. »
Parce qu'il tombe amoureux d'elle.
Il est tombé amoureux d'elle, exactement. Il travaille 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Et le jour du mariage, la mariée étant présentée voilée, sous le voile, ce n'est pas Rachel, c'est Léa.
Surprise.
Surprise, évidemment. Jacob, qui a consommé l'union avec Léa, est marié avec elle. Il demande des comptes à son beau-père, qui lui dit « tu peux travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. » Alors, après la semaine de noces avec Léa, il épouse aussi Rachel et il est contraint de travailler 7 ans de plus pour son oncle. Et donc, c'est clair que Jacob va préférer de loin Rachel, et même le texte dit qu'il détesta Léa. Sauf que Dieu là, va ajouter son grain de sel et qu'il va rendre Léa féconde alors que Rachel reste inféconde.
Donc deux différences là.
Voilà, exactement. Donc vous allez avoir entre les deux sœurs forcément une sorte de rivalité, chacune voulant ce que l'autre a. Rachel espère avoir les enfants comme sa sœur, l'autre espère être aimée de son mari comme sa sœur. Autrement dit, chacune va envier ce que l'autre a. On est dans une situation typique de jalousie qui va être illustrée par la naissance successive des fils de Léa, et puis la manière dont Rachel, en recourant à une servante, va avoir aussi des fils, et la réponse de sa sœur qui va... Voilà, on est dans un conflit en permanent entre deux sœurs qui, d'une certaine manière, ont été mis en situation de rivalité par la convoitise du père qui voulait garder un excellent berger pendant 7 ans gratuitement.
Alors ce que vous dites, André Ouénin, c'est que si Rachel avait été féconde, puisqu'elle est déjà aimée, totalement préférée même par son homme, eh bien elle aurait été dans la toute-puissance.
Mmh.
Et le fait qu'elle soit non féconde, ça introduit du manque.
Exactement, donc chacune a son manque en quelque sorte. Pour Léa, le manque est imposé par Jacob puisqu'il ne l'aime pas, alors que pour Rachel, le manque est imposé par celui qui est le maître de la fécondité, qui est Dieu. Donc chacune est dans le manque. Et je rappelle, hein, le manque est quelque chose de nécessaire pour construire la fraternité. Donc si effectivement, comme vous dites, Rachel avait eu aussi des enfants, elle était dans le tout. Et donc il n'y avait pas de lien nécessaire avec sa sœur. Elle pouvait très bien ignorer sa sœur.
Alors voyant sa sœur Léa donner des enfants à Jacob, jalousie de Rachel, oui, qui va donner sa servante,
voilà,
à Jacob.
Voilà.
Et Léa donnera aussi sa propre servante à Jacob. Donc il y a une sacrée affaire autour des enfants, là.
Oui, absolument. Donc en fait, Rachel ne tolère pas ne pas avoir d'enfants. D'ailleurs, elle dit carrément à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob dit, ce que je suis à la place de Dieu, moi qui t'ai fermé le sein, etc. Et donc elle va donner sa servante Bilha. Il faut entendre, lorsque son deuxième fils naît, le deuxième fils de Bilha que Rachel adopte dès la naissance, elle dit, j'ai lutté des luttes homériques avec ma sœur et je l'ai emporté. Donc on est vraiment dans la lutte pour avoir le tout, mais pour que l'autre ne l'ait pas.
Thank you. André Ouénin, vous voulez nous parler d'une scène qui se déroule au chapitre 30 de la Genèse et qui raconte que Ruben, le fils aîné de Léa, se promène dans les champs moissonnés et trouve des pommes d'amour dans les champs qu'il rapporte à sa mère. Et Rachel désire en avoir elle aussi, ce qu'elle obtiendra de Léa en échange d'une nuit avec Jacob. Pourquoi parler de ce passage pour évoquer la fraternité ?
Eh bien justement, je trouve que ce passage est merveilleux, parce que ce sont quatre versets très courts qui, comme une sorte de petite vignette, montrent exactement ce qui ouvre la porte à la relation fraternelle. Donc les pommes d'amour sont des fruits qui sont réputés, enfin c'est la légende bien sûr, mais qui sont réputés avoir des vertus à la fois aphrodisiaques, c'est-à-dire capables d'éveiller l'amour chez quelqu'un qui ne l'éprouverait pas, et elles sont capables aussi de donner la fécondité à une femme qui ne l'aurait pas.
Donc c'est bien pour les deux, à la fois
exactement.
Léa et Rachel.
Léa peut, grâce à ça, provoquer l'amour de Jacob, et Rachel, elle, peut avoir des enfants. Comme c'est Ruben, le fils de Léa qui a ramené ses pommes d'amour, c'est clair que c'est pour qu'il les donne à sa mère. Là-dessus, Rachel envie, d'une certaine manière, désire obtenir les fruits que sa sœur détient, pour elle avoir des enfants, pour en tout cas espérer en avoir. Et dans un premier temps, le refus de Léa est tout à fait... dur, hein. Elle dit « Tu m'as déjà pris mon mari, tu veux encore me prendre les pommes d'amour de mon fils ?» Et donc il n'est pas question pour elle de céder quoi que ce soit sur le désir de sa sœur. Et c'est à ce moment-là que Rachel fait une proposition en lui disant « Je veux bien te rendre la clé de la chambre de Jacob, puisqu'elle avait barré la porte, si je peux dire, c'est de là qu'on peut le déduire. Tu pourras passer la nuit avec Jacob, autrement dit, tu pourras, grâce à tes pommes d'amour, tenter de susciter l'amour de ton mari, mais en échange des pommes d'amour que tu me donneras à moi aussi. » Et donc, juste après, on voit comment Léa, hein, effectivement, est entrée dans le jeu, puisqu'elle accueille Jacob pour tour de la campagne en disant « C'est vers moi que tu viendras, parce que je t'ai loué, en quelque sorte, contre les pommes d'amour de mon fils. » Et là, en fait, ce que l'on voit, et qui est précisément la clé pour que la fraternité devienne possible, c'est que chacune fait place au désir de l'autre, et donc en renonçant à priver l'autre de ce qu'elle n'a pas.
Donc ça veut dire que Léa, en donnant des pommes d'amour à Rachel, lui permet peut-être d'avoir des enfants. Et Rachel, en donnant des pommes d'amour à Léa, lui permet d'être aimée de son homme qui ne la préfère pas.
Voilà, en tout cas, en lui donnant la possibilité de passer la nuit avec Jacob, elle lui donne la possibilité d'éveiller l'amour chez Jacob.
Autrement dit, elle reconnaît chacune le manque de l'autre.
Voilà, elles reconnaissent chacune le manque de l'autre et donc leur désir. Elles reconnaissent que ce désir est légitime et elles donnent ce qu'il faut pour que ce désir puisse éventuellement trouver s'assouvir.
Donc ces sœurs qui se crêpent le chignon, là, trouvent une porte de sortie.
Exactement. Elles trouvent une porte de sortie, mais une porte de sortie par le haut, où on cède sur son propre désir pour que le désir de l'autre puisse aussi se réaliser. Et quand le désir des deux se réalise, à ce moment-là, entre les deux, quelque chose peut naître, qui est de l'ordre de la fraternité. D'ailleurs, dans les scènes où elles interviendront encore par après, on verra ces deux sœurs qui sont tout à fait d'accord entre elles pour suivre Jacob, pour protéger leurs enfants, etc. Autrement dit, on ne sent plus du tout cette tension que l'on sentait très manifestement dans la scène des naissances où, d'une certaine manière, elles luttaient l'une avec l'autre pour avoir ce que la nature ou Dieu leur avait refusé.
André Ouénin, il y avait quand même une responsabilité du père, là, de dire « je te donnerai Rachel, puis je te donne Léa ». Enfin, il y avait une responsabilité.
Il y a une responsabilité du père, c'est tout à fait clair. Donc c'est bien parce que Laban veut exploiter Jacob pendant 7 ans supplémentaires, parce que on apprend que Jacob est un berger hors pair, et donc c'est clair qu'il veut continuer à bénéficier de ce travail pour rien. Et donc c'est comme ça qu'il va, d'une certaine manière, trafiquer et obliger Jacob à être avec deux femmes rivales. Mais il ne faut pas non plus minimiser le rôle de Jacob. Hein. Jacob est très passif, comme si ces histoires de femmes ne le concernaient pas. Et quand Rachel intervient pour lui demander « donne-moi des fils », la seule chose qu'il dit, c'est que je suis à la place de Dieu. Autrement dit, c'est pas mon affaire. Hein. Autrement dit, là aussi, Jacob n'a pas une action qui pourrait éventuellement amener une certaine paix entre ces deux épouses. Donc d'une certaine manière, le contexte dans lequel les hommes jouent un certain rôle permet qu'il y ait une lutte entre les deux sœurs, et ce sont les deux sœurs, ou plus exactement Rachel, qui va d'une certaine manière trouver l'issue, à savoir le faire place au désir de l'autre en reconnaissant sa légitimité.
Mais que nous dit cette affaire de Léa et Rachel à nous aujourd'hui, il y a la possibilité de négocier pour construire la fraternité ?
Absolument. Donc en fait, si vous voulez, puisque ce qui fait échouer la fraternité est toujours à base de convoitise, ce qu'il s'agit de faire pour créer un lien de fraternité, c'est de faire échec à la convoitise, et ça passe toujours par la parole. C'est-à-dire la parole où je dis à l'autre mon désir et où l'autre va le considérer plus ou moins positivement, ce désir, et lui faire place.
Sinon, c'est la violence.
Et quand je vous ai expliqué ce qu'était la convoitise, c'est de la violence que de ne pas laisser à l'autre la place d'un sujet. C'est déjà violent. On ne l'a pas tué, on n'a pas versé son sang, mais on le met dans une position où il est satellisé par mon désir et donc où il n'a pas la possibilité d'être lui-même, de parler sa propre parole, de dire son propre désir. Et dans ces conditions-là, la violence est déjà là, même si elle ne se manifeste pas par des coups, par la mort.
Merci André Wénin.